I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, parce que l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de toutes les rivalités, surtout celles que nous avons inventées. Aujourd'hui, on va donner vie à un face-à-face entre deux familles de super-héros, puisque les quatre fantastiques vont se friter avec les indestructibles. Avant de présenter notre arbitre du jour, je me permets de rappeler que C'est qui le plus fort s'enregistrera en public en compagnie de trois autres podcasts de Micro Stockholm le 18 décembre à Paris chez Le Tank Média. Le lien pour réserver se trouve dans la description de l'épisode.
En fait non, ce sera le 24 janvier finalement.
Alors donc, pour arbitrer ce combat, je reçois quelqu'un qui fait partie de la grande famille des fans de comics et de l'animation, la personne de Océane.
Salut.
Comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Bah écoute, ça va, toujours partant pour faire vivre ce genre de...
Pour la bagarre.
D'opposition pour la bagarre. Alors dis-moi, je suis sûr que tu as beaucoup d'affect pour ces deux familles, donc pourquoi as-tu accepté cette mission dangereuse de les faire s'affronter?
Parce que c'est Les Indestructibles, c'est un des premiers Pixar que j'ai vu au cinéma. Et vraiment, je l'adore, et Elastigirl, ça reste une de mes héroïnes préférées. Et de la même manière, bah, Les Quatre Fantastiques, c'est ma Madeleine de Proust. En tout cas, le premier film, enfin, techniquement, le deuxième film signé Team Story, sorti en 2005, ça reste une de mes Madeleine de Proust de super-héros. Et je trouve très intéressant de voir comment ça a vieilli aujourd'hui par rapport à d'autres productions qui mettent en scène des familles dysfonctionnelles telles que les Avengers ou la Justice League.
Ok, bon, bah, très bien. Donc, avant de démarrer le combat, est-ce que tu te sens de rappeler un petit peu qui est qui, puisque il y a une très vieille famille d'un côté et une très jeune famille de l'autre?
C'est ça, donc la très jeune famille, donc c'est la famille Parr, qui est composée de Bob, donc Robert Parr, de sa femme Hélène, et de leurs enfants, donc Flèche, Violette et Jack-Jack. Donc c'est une famille qui a été créée par Brad Bird pour le film de 2004 et qui a eu deux films, donc en 2004 et en 2018, 14 ans d'écart. Et de l'autre côté, bah, on a la famille Storm, donc, qui est composée de Monsieur Fantastique, de la femme invisible, de la Torche humaine et de La Chose.
Ok. Alors La Chose, il fait pas... c'est un ami de la famille, mais enfin...
C'est un ami de la famille, c'est Ben Grimm. Ouais. Et sinon, bah, on a du coup, on a Reed Richards. Et sa femme, c'est Susan Storm. Et le petit frère, donc c'est Johnny Storm qui est la torche.
Très bien. Donc sachant que l'une des deux familles est arrivée par le biais de l'animation, mais que l'autre est arrivée par le biais des comics.
Par le biais des comics, il y a un paquet de décennies.
Bon, bah maintenant qu'on a un peu réexpliqué qui était qui, on va passer au combat.
Monsieur Indestructible, on a besoin de vous.
Ça va faire mal.
Chérie, viens dîner.
J'ai pas le temps de dîner.
Alors la première question est très simple. Laquelle des deux familles est la plus connue?
C'est une bonne question. J'aurais peut-être tendance à dire les 4 Fantastiques. Parce que c'est une famille qui aussi bénéficie du support comics, qui a eu plus de films, dont on sait qu'il va y avoir plus de films dans un avenir proche avec Marvel Studios. Et c'est aussi clairement une famille qui a influencé les Indestructibles, tout simplement. Je pense qu'on peut dire que c'est les Indestructibles qui remportent le match. Après les Indestructibles, c'est les 4 Fantastiques qui gagnent le match. Mais les Indestructibles, ça reste une des familles les plus attachantes du cinéma. Et le fait qu'une suite ait été faite en 2018, soit 14 ans après le premier, ça prouve que le premier film avait quand même eu son impact à l'époque.
Et c'est vrai que les 4 Fantastiques ont été un petit peu oubliés ces dernières années, je pense, parce que la culture comics s'est transformée en culture cinéma. Et il y a eu le rouleau compresseur de Marvel, il y a eu les films Fox avec les X-Men, mais par contre les 4 Fantastiques n'ont pas eu le succès au cinéma des autres franchises.
Ouais, les films n'a pas été transformé en fait. Et c'est ça qu'on trouve paradoxal, parce que c'est les 4 Fantastiques, le premier film de Team Story arrive un an après les Indestructibles.
Oui.
Du coup, on aurait pu se dire une nouvelle famille à nouveau et tout ça. Alors ça, parce que les Indestructibles et les 4 Fantastiques étaient assez proches, puisque les Indestructibles c'était Noël 2004 et les 4 Fantastiques c'était l'été 2005. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y avait des dates assez proches de sortie ou quoi? Mais ça reste quand même un gros souvenir, les premiers, les 4 Fantastiques. À chaque fois que moi j'en parle autour de moi, ça reste quand même un souvenir pour beaucoup. Parce qu'il y avait quand même des personnages marquants, qu'il y avait Chris Evans en torche humaine et que déjà il avait enflammé beaucoup, beaucoup de mes amis, si je puis dire.
Le cœur de beaucoup de monde.
Voilà, il avait enflammé le cœur de beaucoup de monde. Et je pense aussi que c'est un peu grâce à Chris Evans qu'on se souvient autant des films 4 Fantastiques. C'est parce que comme il a acquis un autre niveau de célébrité avec Captain America, tout le monde revient un petit peu vers ce qu'il a fait avant. Et les 4 Fantastiques, ça en fait partie. Et je pense que tout le monde garde un souvenir un peu nostalgique, à défaut d'apprécier vraiment le film. Ça reste quand même un souvenir très nostalgique, là où l'Indestructible, c'est pas la nostalgie, c'est encore quelque chose qui est assez encore dans le présent, je trouve.
C'est intéressant que tu emploies le mot nostalgie, parce que je pense que c'est un peu le mot-clé quand on parle des 4 Fantastiques. C'est que c'est une franchise qui a été hyper, hyper importante pour Marvel dans les années 60.
Ouais.
Enfin, des années 60 jusqu'aux années 90, je pense.
Il y avait quand même Civil War dans lequel il y avait quand même une sacrée importance.
Voilà, là, ils sont revenus un peu en odeur de sainteté dans les comics à ce moment-là. Mais je sais aussi que... Enfin, je sais, j'ai cru comprendre plutôt après le rachat de Marvel par Disney, ils ont été un peu mis au placard aussi pour éviter de les mettre trop en avant du fait qu'ils avaient plus les droits au cinéma. Enfin, ils ont été, il y a plus de série 4 Fantastiques, je crois, en comics pendant un moment, il me semble.
Ouais, puis il y a des sacrées mésaventures de mémoire. Il y a quelques années, ils avaient tué la Torche.
Ouais.
Et ils avaient remplacé la Torche par Spider-Man dans les 4 Fantastiques. Et je sais pas si ça avait duré, mais je sais qu'à l'époque, la décision avait fait lever quelques sourcils, parce que clairement, ok, tuer Spider-Man pour le remplacer dans l'univers Ultimate passe encore, mais là, je crois que c'était vraiment l'univers 616 dans lequel ils avaient vraiment supprimé la Torche. Et du coup, c'est là qu'on s'est dit... Ouais, bon, c'est peut-être pas si mal de ranger un peu ça, hein, un peu pour le moment. Puis après, voilà, on sait que de toute manière, ils vont revenir. Ouais. Mais c'est juste une question de temps, c'est de savoir quelle place, quelle priorité Marvel Studios va leur accorder. Ça, pour le coup, c'est là encore une grande inconnue.
Mais c'est aussi des héros qui ont eu... je pense que c'est vrai que c'est des héros qui font un petit peu vintage quand même.
Ah, complètement.
Les 4 Fantastiques.
Ah oui, pour moi, c'est super vintage. Je me souviens quand je lisais les intégrales de Spider-Man dans les années 60 et que du coup, il y avait quelques crossovers avec Daredevil, avec les 4 Fantastiques. Il y avait ce parfum ultra vintage, ultra pulp. Mais c'est ce que j'adore. C'est vraiment... C'est des dialogues ultra... ultra kitsch, mais c'est vrai que c'est vraiment une famille un peu kitsch, et je trouve que le film de 2005 avait un petit peu capté cet esprit un peu kitsch, un peu gentillet, mais que du coup, le film de 2015 n'avait pas du tout réussi ça.
Bon, donc du coup, qui sont les plus connus? C'est encore pour le moment les 4 Fantastiques.
Pour le moment.
Mais si on refait cette émission dans 50 ans, peut-être,
c'est ça.
On aura un avis différent, on ne sait pas.
J'ai pas d'humeur à faire jojo avec toi.
C'est marrant, tu dis toujours ça quand les monstres sont plus beaux que toi, à croire que t'es jaloux.
Toi, l'allumette commence pas à me chauffer. C'est quand même de ta faute si cette bestiole se balade en ville.
Comment ça, ma faute? D'où tu sors ça, tête de brique? Je dirais plutôt que c'est la tienne, oui. Tu t'es vu dans le labo, on dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine.
Jonathan Spencer Storm, tu n'aurais pas quelque chose à me dire, par hasard?
C'était pas ma faute, ça te va comme réponse? Non, sérieux, je sais même pas de quoi vous parlez.
Ta sœur fait sans doute allusion à votre altercation près du moniteur interdimensionnel. Vous savez pourtant que mon laboratoire est rempli d'appareils sensibles.
Sensibles? C'est marrant, c'est pas du tout le mot que j'aurais utilisé, Lestrock. Moi, j'aurais dit vachement dangereux.
Alors, deuxième question. Laquelle de ces deux familles plus ou moins dysfonctionnelles est la plus soudée?
Je dirais les indestructibles, ouais. Quand même. Parce que bah, rien que Civil War, par exemple, a créé une énorme scission dans la famille Storm.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe déjà dans Civil War avec, dans les, Civil avec War, les Storm
alors,
avec là, on parle du comics
on
Civil
parle
War.
Du comics, voilà. Donc, pour rappel, dans Civil War, le comics, parce que le film a un peu fait n'importe quoi avec ça. Alors, déjà, c'était quand même... C'était compliqué. Mm. Mais bon. Donc, dans Civil War, le comics, on a une opposition entre Captain America, donc Steve Rogers, qui veut préserver l'anonymat des super-héros. Et de l'autre côté, on a Tony Stark, donc Iron Man, qui veut créer une charte pour obliger les super-héros à dévoiler leur identité civile. Donc, on a plusieurs héros qui se rangent du côté de Captain America. Et on en a d'autres qui se rangent du côté de Iron Man, dont notamment au début Spider-Man qui dévoile son identité civile dans une page assez célèbre et qui aura des conséquences terribles pour Tante May. Et parmi certains de ses alliés, donc Iron Man, il a Ant-Man, donc il a Hank Pym, et il a aussi Reed Richards. Mmh. Et en fait, il y a une opposition, c'est que Susan Storm est totalement opposée aux idées de Tony Stark, et du coup bah, ça crée une scission dans leur couple et la famille se retrouve scindée en deux rien qu'au niveau conjugal. Et du coup c'est très intéressant de voir que les idéaux de Tony Stark peuvent scinder une famille en deux, là où les indestructibles, je pense que déjà ils sont pas confrontés à ça. Mmh. Parce que de toute manière bah, c'est intéressant des indestructibles de voir qu'ils ne... De toute manière, leurs activités sont illégales. De toute manière, elles ont été rendues illégales par le gouvernement. Mmh. Mais qui continuent à le faire quand même. Donc, ça n'a pas trop l'air de les déranger. Ils sont plus ou moins sur la même longueur d'onde.
C'est drôle de voir qu'il y avait déjà cette idée de super-héros rendus illégaux en 2004. Alors que c'était pas encore... c'est devenu mainstream avec Captain America 3 au cinéma.
Et avec Watchmen, le comics aussi.
Oui, mais je veux dire, culture de masse,
ouais.
Quoi.
Mais c'est vrai qu'en en relisant Watchmen, là, parce que la série est diffusée en ce moment, c'est vrai que tout le décret du gouvernement sur les super-héros deviennent illégaux, machin, bidule chouette, je me suis dit, ouais, Brad Bird, il a dû lire Watchmen un petit peu quand même, parce qu'il y a certains trucs qui sont quand même assez similaires,
je trouve. Mais après, à titre personnel, je trouve ça toujours intéressant quand on arrive à transposer une idée dans un univers, ou plutôt dans un univers pour un certain public, enfin en l'occurrence les comics de Alan Moore qui sont quand même assez durs, assez
pas
adultes.
Pas du tout family friendly.
Et réussir à transposer ça dans un truc pour les enfants, je trouve ça assez cool. Quoi.
Ouais.
Ça me plaît toujours beaucoup. Mais...
Ouais.
Dans Les Indestructibles 2, il y a une tension de couple quand même, non, si je me rappelle bien, entre les aspirations de l'un et de l'autre.
Oui, bah grosso modo, c'est Helen Parr qu'on appelle pour jouer la super-héroïne, et du coup ça crée une sorte de frustration chez Bob Parr qui se retrouve à être le père au foyer, et du coup bah c'est forcément une inversion des stéréotypes de maman au foyer et papa au travail. Après, je trouve qu'ils arrivent quand même à gérer ça de manière assez correcte, c'est-à-dire qu'il y a pas de en fait, c'est pas contre sa femme que Bob Parr il a un griffe, c'est contre le fait qu'il se retrouve seul chez lui. Mais en l'état, je pense pas qu'il en veuille à sa femme qu'elle ait été choisie à sa place. C'est ça que je trouve très intéressant aussi, c'est que il aurait facilement pu tomber dans le cliché de bah oui, mais c'est un peu moi le plus fort, machin, c'est moi qu'ils auraient déjà envoyé. Non, là, c'est juste qu'il est frustré parce que lui-même ne se sent plus réellement utile. Ça va au-delà de sa femme, je pense que sa frustration est à un autre niveau, ce qui rejoint un petit peu ce qui se passe dans le 1 aussi, où il mène une vie d'employé de bureau dans un box trop petit pour lui, il voit une occasion d'être un super-héros, il veut protéger sa femme quand même, et il y va.
Bon. Très bien. Donc, les Indestructibles sont définitivement la famille la plus soudée.
Ouais, puis il y a les. Enfin, je trouve aussi que leurs enfants aident pas mal à ce qu'ils soient soudés.
C'est vrai.
Surtout Jack-Jack.
On va en reparler après. Très bien, donc un partout entre les Indestructibles et les 4 Fantastiques.
Maman, tu fais encore des grimaces ridicules.
Mais non, bah...
Tu fais des grimaces, chérie.
Tu es vraiment obligée de lire à table.
Oui.
Il faut couper ta viande, Flèche. Bon, tu peux donner un coup de main au carnivore. Flèche, tu n'as rien à dire à ton père à propos de l'école?
Si, on a dit c'est qu'une grenouille.
Il a encore été convoqué chez le proviseur.
Bien.
Non, Bob, c'est mal.
Quoi?
Il a encore été convoqué chez le proviseur.
Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait?
Rien.
Il a mis une punaise sur la chaise du professeur pendant le cours.
Personne sait que c'est moi. On voit presque rien sur la cassette.
Ils ont tout enregistré, mais tu t'en es quand même tiré. Waouh! T'es vraiment une fusée. Et à quelle vitesse tu courais?
Bob, pas question de l'encourager.
Je ne l'ai pas encouragé. Je lui ai demandé à quelle vitesse...
Chérie!
Oh, bien sûr. Après la voiture, il faut que je fasse réparer la table.
Quoi? Tu as abîmé la voiture?
Tiens, je vais me chercher une autre assiette. Saleté.
Bon, et toi, Violette, ça va les cours?
Rien à signaler.
Tu as à peine touché à ta viande.
J'ai pas très envie de pâté en croûte.
Oh, c'est le soir où on finit les restes. On a du steak, des spaghettis. Qu'est-ce qui te ferait envie?
Tony Ridinger.
Toi, la ferme!
Quoi? C'est vrai?
J'ai dit la ferme, espèce d'insecte.
C'est vrai, hein?
Défense de crier à table, chérie.
Les enfants, obéissez à votre mère.
Elle mangerait si on avait du Tony en croûte.
Ça suffit!
Alors, on en a déjà pas mal parlé, et là, c'est le chapitre du cinéma. Ces deux familles qui sont très connues sur grand écran, évidemment, les Indestructibles n'ont quasiment que des itérations sur grand écran. Je compte pas les livres pour enfants que je lis à mes gosses tous les soirs. Les 4 Fantastiques ont eu droit à 4 films.
4 et 4 films pas fantastiques.
Ouais, c'est ça. C'est les 4 films pas fantastiques des 4 Fantastiques. Et donc, qui a gagné la bataille du cinéma? Gros suspense.
Alors, franchement, c'est pas que c'est une humiliation pour les 4 Fantastiques, mais un petit peu, puisque en 2 films, Les Indestructibles a engrangé plus de 1,7 milliard de dollars au box-office international. Et les 4 Fantastiques, alors je crois qu'il n'y a que 3 films qui sont comptés sur Wikipédia, mais ils n'arrivent même pas à accumuler 800 millions de dollars. C'est-à-dire qu'ils ont, il y a 1 milliard de différence. Et je pense que même si on rajoute le film fait dans les années 90 pour que Marvel puisse en garder les droits, on va pas bien haut. Et c'est clairement une grosse tatane que les Indestructibles l'infligent aux 4 Fantastiques. Après, les Indestructibles jouent aussi sur 14 ans d'attente, sur l'inflation. Ça, faut encore une fois le préciser. Et clairement, le dernier film 4 Fantastiques n'a pas du tout amassé une masse de dollars. Il y a 168 millions de dollars au box-office. Et pour son démarrage, il a engrangé genre 26 millions de dollars. Je pense que c'est à peu près ce que les Indestructibles 2 a engrangé en une seule séance dans tous les États-Unis pour donner une idée du truc.
C'est-à-dire que, alors déjà sur la bataille des chiffres, c'est déjà une bérésina terrible pour nos 4 pauvres fantastiques. Et alors, indépendamment de ce que chacun peut en penser, je pense que ça va être difficile de trouver beaucoup de monde pour défendre le fait que les films 4 Fantastiques sont des meilleurs films que les Indestructibles.
Ouais, clairement, limite, je pense que celui qui est le plus apprécié des films 4 Fantastiques, ça reste quand même celui de 2005 de Team Story.
Ouais.
Parce que ça gardait un peu cet esprit un peu kitsch. On voyait Jessica Alba... qui à qui on avait éclairci la peau, parce que on rappelle que Jessica Alba est quand même une actrice latina et qu'ils avaient voulu la faire passer pour blanche alors qu'ils auraient pu la garder en tant que latina, ça n'aurait posé aucun souci.
Alors en 2005, on n'était pas prêts. Déjà que maintenant, on est moyennement prêts, j'ai envie de dire.
Ah oui, ça clairement.
Alors en 2005.
Mais il y avait Chris Evans qui était vraiment le poster boy qui commençait un petit peu à percer tranquillement. Il y avait Julianne McMahon qui était en plein dans Nip Tuck et qui est sortie de Charmed. Il y avait Kerry Washington aussi. Enfin, c'était vraiment une époque incroyable, quoi. Et je pense que, en le revoyant aujourd'hui, on se dit, ah, mais ouais, il y avait Kerry Washington avant qu'elle joue dans Scandale et tout ça. Il y avait Chris Evans avant Captain America. Il y avait Jessica Alba lorsque Hollywood tentait de nous faire croire que c'était une bonne actrice et qu'elle pouvait porter une franchise d'action sur ses épaules invisibles. Il y avait Michael Chiklis qui était en plein The Shield.
Oui.
C'était vraiment un casting très télévisuel, ouais, hein, ouais. Mine de rien, ouais, là, ouais. Avec tout ce qu'on dit. Et du coup, je pense que c'était vraiment la période où on pensait que tous les acteurs de série pouvaient être de bons acteurs de cinéma. Mmh. Et on a vu qu'ils se cassaient un petit peu les dents.
Ouais. C'est vrai que, alors, le premier 4 Fantastiques, celui de 2005, est sans doute le meilleur film 4 Fantastiques qui est jamais sorti au cinéma.
C'est pas difficile, mais
sans,
oui.
Sans être un excellent film pour autant, loin de là, ouais. Même. Il a 27% sur Rotten Tomatoes, et je pense que c'est le meilleur des 4 films sur Rotten Tomatoes.
Ouais, je pense que si on vérifie, clairement.
Donc, pour rappeler, Rotten Tomatoes, c'est un agrégateur de critiques de cinéma, en fait. Mm-hmm. De notes de critiques. Et c'est probablement le plus attachant de tous les films qui est sorti, Quatre Fantastiques. Néanmoins, d'un point de vue purement cinématographique, on est à des années-lumière des Indestructibles.
Ah oui, complètement.
Qui ont réussi une prouesse visuelle et d'écriture à la fois, en fin de compte.
Ouais.
Est-ce qu'on se dirait pas un mot, sans vouloir trop tirer sur l'ambulance, sur le 4 Fantastique des années 90
Je suis en train de m'étouffer là, en voulant en parler.
Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu un film 4 Fantastique des années 90.
C'est ça, et pour vous donner un ordre d'idée de la matrice qui a entamé mon cerveau en voyant ce film, c'est que je m'étais fait un après-midi avec des amis, avec le Captain America des années 90. Et le 4 Fantastiques des années 90, et autant vous dire que c'était pas bien du tout. C'est clairement le type de film qui est fait pour que un studio garde les droits des personnages. Donc il n'y a aucun soin qui est apporté aux acteurs, ni au script, ni à la musique, ni aux effets spéciaux, à rien du tout. C'est vraiment le film mercantile et cynique par excellence.
Mais on en a regardé quelques extraits avant l'émission, c'est à mourir de rire en fait. Enfin, visuellement, c'est vraiment du gros nanar. Hein.
C'est à regarder avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de bière et des shots dès que vous voyez un effet spécial qui déconne.
Ouais, ah ouais, mais alors là, vous n'allez pas aller très loin.
Après, l'avantage de ces films, c'est qu'ils ne durent qu'une heure vingt.
Ouais.
Alors ça va vous paraître interminable, mais ça ne dure qu'une heure vingt, je vous promets. Vous allez vous en sortir si vous plongez dedans. Mais non, ça c'est, il y avait clairement aucune thématique intéressante traitée. Même les 4 Fantastiques de Team Story et même le dernier en l'occurrence tentaient un petit peu de parler de famille. Ça reste quand même, en tout cas, le film de 2005, ça reste quand même un film extrêmement familial qui parle beaucoup des valeurs de la famille qui le faisait avant Fast and Furious. Mais c'est la famille, c'est ça. Michael Chiklis, ça s'est transformé en chose pour que Vin Diesel puisse dire c'est la famille dans tous les films Fast and Furious.
J'avais oublié que Fast and Furious, c'était le nouveau, la nouvelle référence dès qu'on parle de famille.
C'est ça.
Avant, il y avait Le Parrain. Maintenant, il y a Fast and Furious. Désolé, c'est comme ça.
Quelle époque.
Deal with it.
Mais les quatre Fantastiques, ouais, non, j'en garde vraiment un souvenir. C'est vraiment un film qui parle de famille. Comment une famille vit dans une tour pendant que Johan Gruffudd, qui fait son nerdy ouais. Reed Richards, qui essaie de pécho Jessica Alba. Il tente de trouver un antidote. Mais moi, ces genres de films, tu me mets devant avec un bon chocolat chaud et des crêpes. Et moi, je regarde ça avec un grand plaisir. Quoi. C'est une Madeleine de Proust des années 2000 en tant que film super-héroïque. Quoi.
Et pour revenir rapidement sur le film des années 90, il n'est même jamais sorti, en fait. Il est disponible sur YouTube, mais
il n'est
jamais sorti. Il avait été fait, effectivement, pour garder des droits. C'est une longue tradition qui a continué encore,
ouais.
De faire des films juste pour garder des droits.
Ouais,
oui. Coucou Spider-Man. Mais et là, il n'est jamais sorti. Mais allez voir les images sur YouTube, c'est à mourir de rire. Quoi. Les passages où les bras de Reed Richards s'allongent et tout, c'est à mourir
c'est
de
énorme.
Rire.
C'est énorme.
Bon, donc 2-1 pour les Indestructibles qui gagnent forcément la bataille du cinéma.
I've had a lot of strange experiences after all these years in the film business, but I have to say the Fantastic Four rank somewhere near the top.
It's clobber time.
Like a phantom, this film.
Strange.
It was like a feeling that I've never experienced before.
It's a piece of history.
I never would have thought that, was it 20 years later, that I'd be sitting here talking about it.
This thing just won't die.
Unfortunately, this version of the Fantastic Four really was doomed.
Alors, on a envie de parler un peu d'avenir, parce qu'on a parlé de nostalgie. Quel avenir pour ces deux franchises, en fait ? Lesquelles des deux ont le futur le plus radieux devant eux, à ton avis ?
Concrètement, je ne me vois pas encore attendre 14 ans pour avoir un Indestructible 3. Je n'en verrai pas forcément non plus l'utilité, parce que je trouve que le 2 boucle bien la boucle.
Il y a déjà quand même pas mal de redites entre le 2 et le 1, je trouve.
Je trouve aussi. Ça a été ma petite déception. Enfin, petite déception, ça reste quand même un très bon film. Oui. Visuellement, ça bute. Elastic Girl, voilà quoi. Ça reste quand même une superbe héroïne.
C'est un super film, mais
c'est un
peu de redites quand même.
Mais on pouvait s'attendre à mieux. Surtout de la part de Brad Bird. Après, on sait que à la base, le film devait sortir encore plus tard, mais que Disney lui a dit « Bon, écoute, à un moment donné, il faut que tu sortes ton film. » Parce que pour le line-up, il leur fallait un film, et du coup, ils ont dit à Brad Bird « Accélère un petit peu, il faut qu'on sorte l'Indestructible en 2018. » Et je me dis, du coup, si on avait attendu un ou deux ans de plus, peut-être que le résultat aurait été mieux. Et du coup, j'aurais pas craché si on sortait un peu plus retardé. Mais pour moi, les Indestructibles... Je pense qu'on a eu... Le premier, c'était vraiment la tarte au citron parfaite. Et le deuxième, c'était la meringue au-dessus, mais qui était un peu cramée. Et du coup, je me verrais pas retenter de mettre de la meringue sur la tarte au citron parfaite qui était le 1. Et du coup, je pense que ce serait bien qu'on laisse les Indestructibles tranquilles. De toute manière, les plans de Pixar, c'est quand même très peu de suites, parce qu'ils ont vu que...
Ça avait gonflé tout le monde ?
Ouais, et enfin, que...
C'est beaucoup dire, hein, parce qu'au niveau box-office, ça va...
Indestructible a très bien géré avec le Swanjit, mais je pense que c'était une des rares exceptions, parce que Cars 2 et Cars 3, voilà, ça a été très compliqué. Mais je pense que Pixar, de toute manière, veut vraiment se refocaliser sur des films originaux. L'an prochain, on a Onward et on a Soul qui ont l'air tous les deux. Enfin, surtout ma Soul, je suis prête à pleurer toutes les larmes de mon corps devant. Mais clairement, le but de Pixar, c'est on arrête les suites, on reprend les films originaux. Et du coup, je pense que les Indestructibles, peut-être un court-métrage, parce que voilà, clairement, pour le premier, ils avaient fait un court-métrage qui était la soirée babysitting de Jack-Jack, et c'est un des meilleurs courts-métrages de Pixar qu'ils aient sorti, je trouve. C'est à mourir de rire, c'est tout ce que le 2 n'a pas réussi à faire avec Jack-Jack à mon goût. Même si Jack-Jack est très bien dans le 2, mais je trouve qu'il pouvait pas surpasser le court-métrage, quoi. Donc, de base, il perdait un peu perdant. Je pense qu'on aurait pu à gagner d'avoir un court-métrage Indestructible pour peut-être offrir un dernier petit bonus, mais un film numéro 3, je pense pas que ce serait utile.
À moins qu'un jour Warner arrive à racheter Disney et qu'il fasse un gritty reboot avec un film solo sur Jack-Jack dans un futur post-apocalyptique réalisé par Snyder avec des ralentis et de la pluie qui tombe, beaucoup de noir. Désolé. Et bon, ok, donc espérons que... En fait, on espère ne pas les revoir, même si on les adore, quoi.
C'est ça, autant rester sur un bon souvenir et s'arrêter plutôt que de continuer et voir une baisse qualitative. Ouais. C'est ça qui m'embête un peu avec le 2, c'est que j'étais contente de les revoir, mais les thématiques, je les ai trouvées à peine effleurées, et je trouve que ouais, l'histoire tourne un peu en rond, et c'est un peu super prévisible. Et du coup, c'est pas que c'était un coup d'épée dans l'eau, parce que visuellement, ça reste quand même une démonstration. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on se disait tous, les Indestructibles 2018, ça va exploser tout. Et genre, 4-5 mois plus tard, on a eu une tour de Spider-Verse et on s'est dit, mais les Indestructibles, what ? C'est quoi ça ?
Ouais. Oui, non, tout à fait. Et alors, l'avenir, il s'annonce comment pour les 4 Fantastiques, du coup ?
Kevin Feige a clairement dit que c'était à l'ordre du jour. Il a dit au Comic-Con, on ne peut pas encore vous parler des X-Men ni des 4 Fantastiques. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont arriver.
Kevin Feige, pour expliquer, c'est le grand architecte
de Marvel.
Du Marvel au cinéma. Et même
maintenant les comics aussi. Ouais. Donc c'est un peu Ike Perlmutter qui était une figure assez controversée, qui s'occupait jusqu'à présent de Marvel Entertainment, donc surtout des comics, mais pas des films. Hein, donc on reprécise pour les gens qui auraient mal compris. Parce que c'est vrai qu'il y a une polémique récemment sur, avec Perlmutter
qui finance Trump, c'est ça, non ?
Ouais, qui finance Trump, qui est quelqu'un de très secret parce qu'il n'existe aucune photo de lui.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est vraiment.
C'est un vrai méchant de comics, en fait.
C'est ça, c'est Louis Le Ternier qui disait à l'époque, mais moi, avec Perlmutter, je ne savais pas du tout à quoi il ressemblait. Et tout ça, qui racontait que même à l'avant-première et tout, il était caché et que personne ne savait à quoi il ressemblait, qu'il évitait toute photo. Ce qui est un super pouvoir en soi.
Oui, pas mal.
Et c'est vrai qu'il y a eu controverse parce que, oh mon dieu, avec Perlmutter qui dirige Marvel, c'est un soutien de Trump. Et du coup, qu'on remette les choses au clair, oui, il a empêché certains films de se faire plutôt que prévu, donc Black Panther, Captain Marvel, c'est des films qui ont été retardés à cause de Perlmutter et de ses idées de merde, mais Kevin Feige, du coup, s'est battu, et on peut dire qu'il a gagné face à Perlmutter, donc si vous allez voir un Marvel, vous ne donnez pas votre argent avec Perlmutter, vous le donnez à Kevin Feige, donc je ne sais pas quoi en penser.
De toute façon, on donne à des retraités floridiens qui sont actionnaires de Disney.
Voilà, c'est ça. Mais du coup, donc, Kevin Feige a dit que clairement, les Quatre Fantastiques étaient à l'ordre du jour en même temps que les X-Men, mais il faudra attendre, et ça, malheureusement, on ne peut qu'attendre.
Bon, en tout cas, ils ont de l'avenir au cinéma, c'est sûr, forcément.
Ouais, ouais.
Et je suis vraiment, moi, j'ai hyper hâte de voir ce qu'ils vont faire, quoi.
Ah ouais, moi j'ai. Est-ce que t'as des idées de fancast pour les 4 Fantastiques?
Mais je veux qu'on reprenne Chris Evans pour refaire la tour.
Ça serait trop bien.
Non, aucune idée, mais dis-moi, toi.
Franchement, ça tourne depuis quelques années, mais John Krasinski en Monsieur Fantastique, Emily Blunt en Femme Invisible, je trouve que ce serait le couple parfait.
Ah ouais, intéressant.
Ouais, ouais, moi, ouais, c'est mes chouchous. Après, pour la torche, vraiment d'idée.
C'est tellement dommage qu'on n'ait pas pu attendre. On aurait pu avoir une longue série de films 4 Fantastiques avec Michael B. Jordan en torche. Ça aurait été cool quand même.
Ça aurait été cool. Après, ce qui était intéressant, c'est que pour les 4 Fantastiques de 2015, les idées de casting, c'était vraiment l'anarchie complète. À la base, en plus, les gens disaient Alison Williams pour jouer. Pour jouer à la femme invisible, il faut savoir qu'Alison Williams, c'est Marnie dans Girls, pour citer un peu, et c'est la copine du héros de Get Out. Voilà. Et du coup, quand ils ont annoncé après Michael B. Jordan, ça avait commencé à râler un petit peu. Et effectivement, ils ont ensuite annoncé Michael B. Jordan, donc on s'est dit, bon, pourquoi pas. Et ils ont réannoncé une actrice blanche, donc Kate Mara, pour jouer à Susan Storm, et je m'étais dit, mais c'est dommage parce que vous auriez pu avoir un couple de frères et sœurs afro-américains. Au lieu de dire, ah bah machin, le frère a été adopté ou tout ça, bah je trouve qu'en fait ça gâche un petit peu la dynamique, en fait.
Ouais, ouais, c'était vraiment.
On croyait pas à cette histoire vraiment, de frères et sœurs.
C'était vraiment un drôle de choix. Ouais.
C'est ça, alors que si tu vas direct, tu prends un duo d'afro-américains, bah le public va y croire. Au lieu de dire il a été adopté ceci cela, alors que justement là l'un des trucs intéressants avec les 4 Fantastiques, c'est qu'ils ont un lien de sang. C'est ça aussi qui est extrêmement important, c'est que et c'est ça aussi qui rend leur relation si intéressante à Johnny et à Suzanne, c'est que vraiment c'est un lien du sang qui est indéfectible, quoi. Du coup, oui, clairement le meilleur avenir c'est les 4 Fantastiques si c'est bien fait.
Ouais.
Parce que je trouve que si les films sont mal faits, le point irait à être indestructible, parce qu'un avenir radieux, parfois c'est juste savoir s'arrêter au bon moment.
Tout à fait. Donc,
je dirais un point partout, parce que je trouve qu'on est encore trop indécis par rapport aux 4 Fantastiques.
D'accord, très bien. Donc ça fait, je reprends le compte, on est toujours à 2-1 du coup.
Ouais.
2-1 pour...
Les Indestructibles.
Les Indestructibles. Je suis un peu dissipé.
Tu as une tête de déterré, Robert.
Je dors presque plus. Je gâche la vie de ma fille. Ils n'arrêtent pas de changer les maths. Il nous fallait des petites piles, mais j'ai acheté des grosses piles. Résultat, on n'a toujours pas de petites piles. J'ai mis un t-shirt rouge dans une machine de blanc, le linge est ressorti rose. Il n'y a plus d'œufs dans le frigo.
Élever un enfant convenablement est un acte plus qu'héroïque. L'élever convenablement. Je remercie le ciel tous les jours de m'avoir épargné cette tâche.
Donc 2-1 pour les Indestructibles. Il nous reste un round de prévu. Est-ce que les Indestructibles vont remporter le dernier point et donc clore le débat, ou est-ce qu'on va devoir faire appel à un point décisif? Le suspense est maximal. Dans une bagarre, dans une arrière-cour où on veut d'ailleurs, hein, dans un stade, dans une...
Dans un aéroport.
Dans une autre dimension, dans un aéroport. Tu veux dire un aéroport militaire ou un aéroport genre à Orly dans des boutiques?
Un aéroport à Berlin vidé, je sais pas si t'as dit un truc.
Ce genre d'aéroport-là, pas un aéroport Booba et...
Non, pas au duty free.
Voilà, pas au duty free. Donc, dans une bagarre, bah, qui gagne quoi?
Les indestructibles.
Ah ouais?
Bah, ils ont un avantage du nombre, ouais. Parce qu'ils sont 5 par rapport à 4.
C'est vrai.
Et je pense que oui, non, c'est clairement les indestructibles qui gagnent.
Ça dépend de quel âge a Jack en fait.
Bah en fait le fait qu'il soit un bébé, je trouve que ça le rend plus redoutable parce qu'il a aucun contrôle de ses pouvoirs. Mmh. Du coup, il peut vraiment faire n'importe quoi, mais à une échelle cosmique.
Ouais.
C'est une arme de destruction massive. C'est un bébé comme arme de destruction massive. Mmh. Du coup, je me dis que il pourrait très bien faire en sorte qu'il pourrait très bien se transformer en matière qui peut traverser la chose et du coup déjouer tous ses plans. Il pourrait se transformer en matière qui ne craint pas le feu. Il aurait un champ de force qui l'empêcherait de voir la femme invisible arriver de manière invisible. Et Monsieur Fantastique, bah oui, il a le même champ de force et il rejette ses coups de poing. Après, de l'autre côté, on a aussi la femme invisible qui a son champ de force. Mais le truc, c'est qu'elle est face à Violette aussi, qui a le même pouvoir.
Donc attends, ça serait comment la bagarre? On aurait Bob contre la chose, forcément,
ouais,
puisqu'ils ont
ouais.
les mêmes pouvoirs, donc les pouvoirs de force. Alors, qui est le plus fort entre les deux? Est-ce que la chose est un peu plus fort quand même, non?
Moi, je pense que ce serait la chose, ouais.
Ouais.
Là-dessus, ce serait la chose.
Après, on aurait Violette face à la femme invisible. Ah, la femme invisible gagne quand même, elle a peut-être plus de...
Ouais, elle a plus de force.
De force.
Ouais.
Après, on aurait Elastigirl contre Reed Richards.
Et là, je pense que c'est Elastigirl qui gagne.
Alors, Elastigirl gagne peut-être sur les pouvoirs purs, mais Reed Richards, c'est quand même un scientifique super intelligent.
Donc, ouais, donc... mais en l'occurrence, si t'es sur un champ de combat, je sais pas comment Reed il peut se débrouiller sans ses instruments.
C'est-à-dire que s'il a été pris de court, il se ferait avoir. S'il a pu préparer le combat, peut-être qu'il aurait...
Ouais.
Inventer une machine incroyable pour déjouer ouais. tout ça.
Mais moi je pense que sur le combat pur, c'est Elastigirl qui gagne.
Bon. Alors après, on aurait Flèche contre la torche. Ils ont pas les mêmes pouvoirs.
Mais... Ouais, mais Flèche peut éteindre la torche, je ouais. pense. Et après, t'as Jack qui est une arme de destruction massive et qui peut ouais. donc faire n'importe, et faire
ouais,
n'importe
ça
quoi.
Ça serait Jack qui ferait la différence
ouais.
à la fin.
Ouais, donc, je pense que c'est Jack qui donne le point aux indestructibles.
Désolé les 4 fantastiques, ouais. c'est comme ça, hein, c'est indestructibles qui gagnent. En même temps, c'est vrai que c'est dans le film, c'est Jack aussi qui fait tout basculer à la fin, dans le 2.
Ah oui. Oui, clairement.
Donc voilà, c'est comme ça, désolé. C'était pas une injonction à avoir un autre enfant, mais c'est comme ça.
Bah après, tu me diras, dans les 4 fantastiques, c'est quand même le Dr Doom qui est le parrain des enfants de
Hélène.
Parce qu'en fait, il me semble qu'il avait dû lui sauver la vie
en
l'advérie lorsque sa grossesse avait mal tourné. Il avait dit « Ok, je t'aide, mais je veux être le parrain des gosses. »
Ah, c'est intéressant que tu parles de Doom, on n'en a pas parlé. C'est vrai que ouais. Dr Doom, c'est quand même un petit peu c'est un membre de la famille, d'une certaine façon.
Ah oui, c'est le tonton un petit peu dangereux.
C'est le tonton bourré.
C'est le tonton bourré au repas de Noël. Non mais vous comprenez, à l'advérie, c'est le meilleur pays, allez, venez.
Donc oui, c'est vrai que seraient les 4 fantastiques sans leur antagoniste,
oui.
mais avec qui ils ont quand même un lien d'affection malgré tout, parce que c'était un
oui.
ami, enfin c'est compliqué.
C'était un ami qui est devenu un ennemi.
Et puis Doom, dans les comics, c'est un méchant relativement attachant quand même. Il a des moments où il redevient un peu plus gentil.
Oui, méchant intéressant. Et sa relation avec Scarlet Witch aussi est très ambigu, parce que dans Children's Crusade, elle est en Latveri. Du coup, on soupçonne qu'ils ont un fils ensemble qui s'appelle Max. Et quand on sait que normalement, la sorcière rouge, donc Scarlet Witch, elle est surtout affiliée à Vision, puisqu'ils ont eu 2 enfants ensemble, donc Wiccan et Speed. C'est vrai que c'est intéressant de voir que Dr. Doom, ça reste quand même quelqu'un avec les femmes, il galère un peu et voilà, on va dire ça comme ça.
Peut-être que s'il y avait une bagarre, est-ce que tu crois que Victor, si dans un bon jour, il viendrait pour aider les 4 Fantastiques ou il les laisserait galérer contre les Indestructibles?
Oui, je pense qu'il viendrait les aider sans problème, clairement.
Bon, bref. Mais désolé, ça suffit pas, c'est quand même les Indestructibles qui gagnent parce que c'est comme ça. Parce voilà. Il y a toujours un gagnant dans
c'est la Disney Monique cette... qui a encore gagné.
Exactement. Bah merci Océane.
Et merci beaucoup de l'invitation.
Où est-ce qu'on peut te retrouver?
Ouais, bah vous pouvez me retrouver sur mon podcast, le Lemon Adaptation Club, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux aussi. Je suis surtout active sur Twitter où j'échange des idées de podcast avec les gens. Et sinon, vous pouvez me retrouver de manière régulière le dimanche dans Hyperlink, l'émission pop culture de VL Media diffusée sur Twitch de 17h à 18h30.
C'est quoi ton compte Twitter du coup?
Lemonade Exit.
Très bien. Vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee, c'est qui le plus fort de plus Tipeee, T-I-P-E-E-E-E, ça permet d'enregistrer des nouvelles émissions publiques et d'assurer le rythme hebdomadaire. Donc je parlais public, vous pouvez retrouver également l'émission en public et avec plein de monde le 18 décembre au Tank Media à Paris.
Le 24 janvier, Scrognonieux.
On parlera probablement de David Bowie et de Freddie Mercury, donc c'est un duel qui va faire probablement pleurer les fans de musique.
Sous pression.
Sous pression. C'est le mot-clé. Vous pouvez retrouver l'émission également sur les réseaux sociaux, c'est qui plus fort sur Twitter ou sur Facebook. Et il ne me reste plus qu'à vous dire que ce podcast est un podcast produit par Micro Stockholm, animé et réalisé par moi-même, Martin Gamara. Et à vous dire qu'on se retrouvera bientôt pour un nouveau duel qui va forcément vous faire pleurer dans un prochain épisode. Et puis, Océane, écoute, à bientôt.
À bientôt.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.